Ville-Monde.
À Moscou, partons, comme les trois sœurs de Tchekhov. Après la belle île du Pacifique, comme les marins l'appelaient, Taïwan, cap au nord, vers l'extrême-orient russe, imaginons que nous suivons le transsibérien de Vladivostok jusqu'à Moscou. Ville-monde Moscou, du monde entier au cœur du monde, comme le poète Blaise Cendrars dans sa prose du transsibérien. Bon voyage sur France Culture sans frontières.
C'est le symbole de tout. Ça a été le symbole, le centre de la Russie qui a ramassé toutes les terres de la Russie. Donc, c'était le symbole de la centralisation. C'était le symbole, et ça reste, du pouvoir un peu byzantin de l'État moscovite d'avant Pierre le Grand. C'est aussi, ça a été le symbole de cette richesse, hospitalité et résistance du XVIIIe siècle et de la guerre contre Napoléon, quand Moscou était envahie. Quand Moscou était redevenue capitale de notre pays, qui était à l'époque l'Union soviétique, Moscou devenait à la fois symbole de ce pouvoir uni bolchevique et stalinien, et aussi de la répression, mais aussi de la résistance, de nouveau de la résistance, parce que c'est devant Moscou que les nazis se sont arrêtés, ont été arrêtés. Et je dirais que qu'après la perestroïka et après la chute de l'Union soviétique, Moscou a accumulé tout ce qui était gloire de capitale impériale, comme c'était à l'époque de Saint-Pétersbourg, a tout cumulé, parce que Moscou est devenu symbole de la jalousie tout entière de toute la Russie. La jalousie de Saint-Pétersbourg, qui avait perdu son statut de capitale, et aussi de toute la Russie, de toutes les villes. C'est Moscou, Moscou, Moscou la riche, Moscou la hautaine, Moscou qui méprise toute la Russie, tous les autres habitants de la Russie, qui sont pauvres, on dit. Donc Moscou reste symbole de tout ce qui se passe à toutes les époques en Russie. Un symbole profond et qui accumule toutes les mythologies possibles. Quand ça concerne Moscou, c'est quand il y a une richesse ou bien le pillage des pauvres, c'est Moscou qui accumule tout ça, qui devient le plus grand brigand, le plus riche des riches, et Moscou qui s'est amplifié tous les phénomènes qui se passent en Russie, même dans l'état psychologiquement.
Moscou, ville symbole, dit Sergei Buntman. Moscou, un prisme, une loupe à travers laquelle on voit toute la Russie, dit celui qui écoute tous les jours l'écho de la plus grande ville d'Europe depuis les studios de sa radio, Écho de Moscou. Moscou, une ville-État, l'un des 83 sujets qui constituent la Fédération de Russie. Moscou, la capitale du pays le plus vaste du monde. Moscou, ville-monde. On se rencontrait avec Sergueï sur une île, au milieu de la Moskova, face au Kremlin, face à la cathédrale du Christ Sauveur, dans un bar de l'Institut des médias, du design et de l'architecture, Strelka. Son but est de devenir une source d'une énergie créatrice appelée à transformer ni plus ni moins l'apparence de la Russie, en commençant bien sûr par Moscou. On verra s'ils vont réussir, en tout cas le cadre de vie, les décorations dans lesquelles se joue le spectacle, Moscou extérieur, est un sujet qui revient plusieurs fois dans n'importe quelle conversation avec un moscovite. Continuons donc à observer cette ville en compagnie de Sergueï Buntman, depuis les baies vitrées de ce qui est de loin le plus confortable, chaleureux et contemporain à Moscou, le bar du Strelka, puis essayons de choisir d'autres points d'observation pour tenter de saisir, de l'extérieur toujours, cette énorme pomme qui abrite près de 12 millions d'habitants.
Желающие, проходите, занимайте места.
Moscou, extérieur jour, une tentative d'observation par Alexis Patovtsev et Guillaume Baldi.
Moscou, c'est où ?
Moscou, c'est où ? C'est, si on regarde toute cette plaine russe, c'est à peu près au milieu, un peu vers le nord. Mais c'est sur la petite rivière de Moskova, qui a été toujours petite rivière. La Moskova, c'est l'affluent de la Oka, qui à son tour est affluent de la Volga. Voilà, on voit tout ce grand système ramifié de rivières et de fleuves en Russie. C'est au milieu de forêts, sur tous ces fleuves et rivières, c'était les Varègues, les Normands qui passaient, qui descendaient, les Grecs qui montaient... C'était la voie la plus animée, la voie commerciale et aussi militaire. Il y a eu des petites principautés, des petites forteresses. Et voilà, le Kremlin, qui ne veut dire rien d'autre qu'une forteresse, un petit fort, a été fondé sur une colline au XIIe siècle. On voit, d'après les chroniques, on voit la naissance de Moscou. C'est la première invitation du prince de Moscou. Il avait des invités. « Venez chez moi ». Voilà. Comment Moscou avait été fondée avant cet événement, ce festin auquel étaient invités les autres, les vassaux, les autres princes, personne ne sait. Et autant de l'éclat des princes de Kiev et aussi des républiques de Novgorod et de Pskov, un peu à cette époque, Moscou naît et sans aucune chance pour le moment de devenir centre de la Russie. Le nom vient, on ne sait pas exactement de quelle langue, quelle est l'étymologie exacte de ce nom, Moscou. C'était une forteresse parmi beaucoup d'autres, parmi des dizaines d'autres. Et je pense que ce n'est pas la position géographique exacte. Par exemple, Zvenigorod est une colline plus haute et plus belle. Tver, c'est plus près des voies commerciales. Et on peut faire toute une liste des villes et des forteresses qu'on aurait pu préférer à Moscou. Cette évolution de Moscou est due au caractère des princes qui gouvernaient à Moscou. Au hasard aussi, militaire et l'invasion des Mongols qui a fait des ravages. Mais les princes de Moscou ont su faire des choses. Il y a eu des princes qui ressemblaient beaucoup, par exemple, à Louis XI en France, qui ont accumulé les terres. Et Moscou était devenu quelque chose de beaucoup plus important qu'avant. Et voilà, Moscou, avec un jeu aussi subtil de rivalité, de diplomatie, de guerre et aussi de perfidie, a vaincu non seulement les Mongols, mais aussi ses propres rivaux parmi les autres princes russes. Et voilà, vers la fin 15e, 16e siècle, Moscou est le centre incontestable de tout ce qu'a été la Russie de Nord-Est, qui est devenue principauté et grande principauté de Moscou. Les plus décisives de Moscou sur d'autres terres et aussi sur d'autres versions de pouvoir, versions de gouvernement. C'était les campagnes d'Ivan III et aussi d'Ivan IV, le terrible, contre Novgorod et Pskov, les villes-villes, je dirais. Parce que nous verrons et nous voyons encore que ni Moscou, ni d'autres villes du centre de la Russie ne sont pas forcément des villes. Ce sont des bourgades des princes. Et tout le développement, non seulement des villes, mais aussi de la Russie, est dû à ce phénomène que ce sont des bourgades de princes, que ce sont tout dépend du prince, tout ce qui est autogestion est quasi inexistant. Et ça a duré jusqu'à l'époque, je dirais, jusqu'au XVIIIe siècle, jusqu'à l'époque de Catherine II.
Même si Moscou perd ensuite son statut de centre politique, qui bouge vers Saint-Pétersbourg, elle reste néanmoins un point extrêmement fort politique et économique en Russie. Quand Napoléon veut attaquer la Russie, il veut aller vers Moscou et pas vers Saint-Pétersbourg.
Oui, là, il a prononcé ou pas prononcé, on lui attribue la phrase très belle, frapper au cœur de la Russie, pas à la tête qui était Saint-Pétersbourg, pas aux bras, aux jambes, mais au cœur de la Russie. C'est-à-dire qu'avec Moscou, c'était toute la mythologie et toute l'authenticité, je dirais, russe, qui était liée jusqu'à 1812. Aussi, et en 1812, cette Moscou un peu méprisée depuis Pierre le Grand, depuis l'Empire, depuis la construction de Saint-Pétersbourg, Moscou a la grâce, Moscou a la fainéante, Moscou a la ville des marchands, des vieux aristocrates, pas des actifs, pas des modernes, mais des vieux aristocrates. La maison de Moscou, c'était autre chose. Si la maison de Saint-Pétersbourg, c'est une splendeur, une certaine proximité de la cour, il y a toutes les intrigues politiques et toutes les alliances et les méfiances, tout se fait dans les grands palais de Saint-Pétersbourg, mais dans les palais de Moscou, qui sont des... Je dirais, en pleine ville, c'était avant l'incendie de Moscou, pendant la guerre contre Napoléon, c'était des châteaux de campagne en pleine ville, je dirais, avec des jardins, avec des potagers, avec toute la vie était un peu rurale. Et ce qui était important, c'est toutes les chroniques le disent et tous les journaux, c'est les journaux intimes et toute la correspondance le dit, à Moscou on mange beaucoup mieux qu'à Saint-Pétersbourg. Voilà, cette Moscou est un peu mythique, avec ses rues qui sont plutôt des routes, avec énormément de maisons, de quartiers en bois. À l'époque de Pierre le Grand, pendant la construction de Saint-Pétersbourg, il était interdit et quasi interdit de construire des bâtiments en pierre à Moscou. C'est pourquoi Moscou était restée comme ça, une ville de bois.
Moscou est une ville des anneaux. La ville s'est étendue progressivement sur un très vaste territoire, en gardant toujours sa forme circulaire et marquant ses conquêtes territoriales par les anneaux. L'anneau des enceintes du Kremlin, l'anneau des boulevards, l'anneau des jardins, l'anneau industriel, le périphérique et même plus loin aujourd'hui. Pour aller depuis le centre vers les frontières de la ville, il faut prendre le métro, le moyen de transport le plus fiable, le plus rapide dans Moscou d'aujourd'hui. La famille de Ludmila Ulitskaya, une des écrivaines moscovites les plus populaires d'aujourd'hui, a toujours vécu dans le nord, près du chemin menant vers l'extérieur.
Notre première maison familiale se trouvait aux frontières de la ville, aux frontières historiques. Mon grand-père prenait son cheval pour aller à l'université. Cela paraît ridicule car aujourd'hui en métro on met 12 minutes. Curieusement, c'est mon père qui l'a construit ensuite, ce métro. Depuis, notre famille a toujours habité dans le nord moscovite. Nous avons beaucoup déménagé en achetant, en vendant des appartements. Puis est arrivé le temps où on n'avait plus le droit de posséder des appartements. On devait les obtenir de l'État. Puis de nouveau maintenant, on peut acheter son appartement. Toute cette histoire familiale s'est déroulée dans le nord de Moscou. Je suis donc une nordiste. J'ai vécu dans un Moscou très provincial, avec des cours merveilleuses, pas encore couvertes par l'asphalte, en terre battue, avec de vieux arbres, avec des cordes à linge, sur lesquelles était suspendu le vieux linge rafistolé. Les enfants jouaient dans cet espace aux jeux traditionnels russes, comme le lapta. Et ce Moscou-là, je ne peux pas dire que je l'ai mais c'est le seul que j'ai connu. Ma maison était comme ça. Je m'y sentais à l'aise. La rencontre avec d'autres endroits du monde est venue tardivement. Aujourd'hui, je suis tout à fait consciente qu'il existe des endroits beaucoup plus attirants que Moscou.
En même temps, c'était déjà une grande capitale.
Vous savez, le monde d'un enfant est très petit au début. Je me souviens comment il a commencé à s'agrandir. Je me souviens. Voilà, on a construit la station de métro Novoslobodskaya. C'était juste au bout de ma rue. Et puis voilà, un jour, je vais dans une école de musique dans le centre-ville. Et le monde devenait progressivement de plus en plus grand. Mais avec le temps, cette teinte provinciale de la ville s'effaçait progressivement. Et ce que nous avons à la place, c'est un monstre assez cauchemardesque. Une de mes copines a passé 25 ans en Italie sans jamais retourner à Moscou à cause de sérieux problèmes familiaux. Elle a néanmoins beaucoup voyagé ailleurs. Finalement, de retour à Moscou, elle s'est écriée « Mon Dieu, mais où est Moscou ? C'est une espèce de Hong Kong. » Aujourd'hui, dans mon esprit, Moscou est très mal noté. J'y réside et j'y passe la plupart de mon temps, même si je me déplace beaucoup. Et avec mon mari, on pense de plus en plus, allez, on va se barrer d'ici.
L'écrivain Dmitri Bykov, à ma demande de me raconter son Moscou depuis la cour de l'école où il enseigne, m'a répondu sèchement « Moscou ne m'intéresse pas en tant qu'écrivain ». Choisissons donc un autre point d'observation sur l'anneau des boulevards depuis l'appartement très haut perché de la poétesse Tatiana Shcherbina.
Quand je dis Moscou, en fait pour moi, c'est le centre de Moscou. Puisque Moscou est grand. Et si on parle des parties de Moscou, je ne sais pas, mais n'importe où, à l'est, à l'ouest, au nord, etc.
Il n'y a pas de vraie banlieue à Moscou, parce que tout est Moscou,
oui.
Mais en même
Pour moi, c'est plus Moscou. Par exemple, je prends le métro, je sors quelque part à une station
éloignée
du centre, et je suis aussi dans un autre monde.
Aussi,
je suis à l'étranger. Donc, pour moi, Moscou est plus, disons, précisément, c'est à l'intérieur du cercle d'ouverture. Voilà, ça, pour moi, c'est Moscou. Et ensuite...
Donc, c'est Moscou du 19e siècle, en gros.
Oui.
Donc, là où la ville s'arrêtait en 19e siècle. À peu près ici, là où nous sommes actuellement.
Mais oui. Et ensuite, c'est... Ça dure un peu, mais de moins en moins, plus c'est loin, plus c'est moins Moscou.
Il n'y a pas beaucoup de circulation selon les critères moscovites, n'est-ce pas, Katia ?
Ah, aujourd'hui, c'est jour férié, l'ancien jour de l'armée rouge, qui est maintenant le jour de défenseur de la patrie.
Donc, Ekaterina, nous sommes avec vous dans votre voiture. C'est votre mode de transport préféré ? Malgré les bouchons interminables à Moscou, hier on a entendu l'annonce à la radio, 793 km de bouchons.
Le transport commun, il est très public et il n'est pas très bon. Les stations de métro sont très écartées et les bus...
Très éloignés l'un de l'autre. Et on ne marche jamais ici.
Dans le centre, vous pouvez. Dans le centre, dans le Sadovo et Calzo, ça c'est tout à fait faisable. Mais il y a encore une semaine, elle faisait presque moins 30. Tu ne peux pas marcher très longtemps. C'est soit les distances, soit le climat qu'il fait à l'extérieur. Et puis c'est souvent aussi désagréablement pollué.
Donc tous les fléaux d'une énorme métropole, la plus grande ville européenne.
Que l'uniforme de ces soldats.
On tourne un film ici apparemment.
Un documentaire ou un film.
C'est l'uniforme de l'armée rouge de l'époque de la Deuxième Guerre mondiale.
Non, c'est pas l'armée rouge. D'après les couleurs de leur chapeau, c'est ce que vous adorez, KGB. Ah. Mais de l'époque.
NKVD encore.
NKVD, c'est juste après la guerre.
Alexandre Dabashian, bonjour.
Bonjour.
On vous connaît comme le grand scénariste de films de Nikita Mikhalkov, comme son directeur artistique. Vous êtes également l'acteur, metteur en scène et peintre, d'après ce que je sais.
Oui.
Ma première question, comment vous arriverez à tourner à Moscou? Mon technicien et mon réalisateur me dit que c'est impossible de tourner à l'extérieur à cause du bruit ambiant et à cause du vent.
Ça dépend où est-ce que ça se passe, en particulier ici, c'est un peu difficile, je suis d'accord. Mais ça dépend qu'est-ce que vous faites, si c'est un film moderne, contemporain, alors c'est normal, ce bruit, ça fait une partie d'ambiance, malheureusement, mais c'est comme ça. Mais cette ambiance, vous auriez toujours si vous êtes au centre-ville. Mais si vous auriez dans les petites ruelles, région d'Arbat, par exemple, c'est le calme. Surtout en été, avec les arbres, les verdures. Là, on peut tourner le son direct.
Si je vous demande d'être un scénariste d'un petit radiofilm sur votre Moscou à vous, le Moscou que vous aimez. Vous êtes né à Moscou, n'est-ce pas?
Oui.
Vous aimez cette ville, c'est votre
Évidemment,
ville.
Évidemment, oui.
Donc si je vous demande de nous amener dans votre Moscou à vous, on peut trouver un endroit où on peut tourner à l'extérieur?
Oui, mais c'est plutôt en été. Parce que même que je suis né à Moscou, j'aime pas tellement l'hiver à Moscou. Surtout maintenant. Je me souviens de mon enfance, mais vous savez toujours leur enfance, de n'importe qui. Le ciel était toujours bleu, la neige blanche. Il ne faisait jamais moins 30, mais c'était autour de 10. Mais c'est vrai que je me souviens de Moscou tel que je l'ai décrit. Parce qu'il y avait moins de voitures. Très peu de voitures, d'abord. Ensuite, les pollutions n'étaient pas si fortes que maintenant. Alors, la neige avait toujours la couleur blanche. La chose un peu...
C'est pas comme aujourd'hui.
Bon, un tout petit peu comme aujourd'hui. C'est ce qui est frais, c'est par exemple les toits, regardez.
Les toits sont blanches, mais...
Ils sont blanches, mais c'est... S'il ne va pas neiger deux jours, ce serait gris et couvert de cette voilà, la couleur de la neige qu'on a ramassée.
Vous habitez pas très loin d'ici?
Non, pas vraiment. Là, vous savez, c'est un peu plus loin. En bas, c'est en face de cette maison Pachkov. C'est un hôtel particulier du 19e siècle, même début du 18e. Une des plus belles maisons de Moscou, d'après Bulgakov. De l'autre côté, c'est le musée Pouchkine, en face, c'est Kremlin. Et de gauche, c'est un autre musée d'un ex-président de l'Union soviétique, Kalinine. Et voilà, quand je faisais l'école des beaux-arts, on nous a demandé de faire un dessin architectural, si on peut le dire. Voilà, j'ai choisi cette maison Pashkov. J'ai choisi une place en face de lui. C'était près de ce musée de Kalinine. Et à côté, j'ai vu une petite maisonnette, plutôt la porche d'entrée. Et parce que c'était lié, la technique était un peu difficile que j'ai choisi, et ça demandait un peu d'aquarelle, et il me fallait un peu d'eau. Alors j'ai frappé à la porte de cette maison, et j'étais bouleversé. Quand une vieille femme m'a ouvert la porte, c'était vraiment une maison de campagne. C'était l'herbe, quelques poulets qui se promenaient, une petite cabane à côté où il y avait, je ne sais pas, c'est peut-être était stocké leur truc de ménage, la pompe à l'eau, manivelle, et une petite maison, vraiment une maison de campagne, avec trois fenêtres. Et c'était une vieille qui était assise au milieu de la cour, sur un petit tabouret, elle prenait du soleil. Je lui ai demandé, voilà, il me faut un peu d'eau. Il a dit, bon, entrez, là vous verrez. J'ai entré tout seul. C'était vraiment une maison de campagne. Avec une cheminée, mais qui ne fonctionnait pas. Il y a à côté aussi un truc à gaz. Mais le reste, c'était vraiment une maison du village. L'eau était dans une seau. Je l'ai pris. J'ai jeté un coup d'eau à l'intérieur, même que c'était pas gentil de mon côté, mais c'était plus fort que moi. C'était vraiment une maison de campagne. Avec le plancher, avec des planches larges comme ça, des couleurs typiquement ce marron qu'on utilise au village. Les murs de grands, comment ça s'appelle, les troncs d'arbres. Ça a été couvert de vieux papier peint, qui répétait la forme de ce machin. Vraiment, c'était une maison de campagne qui était au milieu de Moscou, centre-ville.
Et ce n'était pas un décor d'un film, c'est une vraie maison.
Non, c'est une vraie maison. Et je demandais à cette vieille qu'est-ce qui habite. Elle a dit que voilà, c'est depuis des générations qu'il habite là. Maintenant, c'était son fils avec sa femme et une petite fille. Ils sont absents pour le moment. Il était très gentil. Après, je montrais à mes amis, à mes copains, ce truc, c'était vraiment... Presque personne ne savait pas son existence. Et un jour, j'étais absent quelques temps, parce qu'on tournait ailleurs, et je suis venu encore une fois pour voir cette maison préférée, parce que j'avais l'idée de venir un jour. Vous savez que comme ça se fait souvent, bon, alors je viendrai demain, peut-être dans un mois... Qu'est-ce qui va se passer? Et j'ai vu que ça n'existe plus. Il y a un gazon vert. Et après, on m'a raconté que c'était avant la visite de Nixon à Moscou. Alors, on préparait son chemin. Comment il devait, de l'ambassade des États-Unis aller au Kremlin. Alors, ça passait à côté de cette maison. Et voilà, je ne sais pas qui était de cette grande personne qui est responsable de ce parcours, qui a jeté un coup d'œil, et qu'est-ce que c'est que ça? On lui a dit que là, c'est dans une petite maison particulière, là. Et dans 3 jours, c'était fini. Je ne sais pas où sont partis ces habitants, peut-être ils ont dans un HLM au banlieue de Moscou. Et la maison a été rasée complètement, et jusqu'à présent, il n'y a rien, il y a un grand terrain couvert de l'herbe, maintenant c'est couvert de la neige. Mais dès que je suis là, je me souviens toujours et j'y vais souvent pour jeter un coup d'œil et me souvenir de ce miracle.
Il y a comme un fantôme pour vous là-bas, fantôme d'une maison.
Oui, mais maintenant, c'est le fantôme de mon souvenir, on peut dire comme ça.
Mais les fantômes hantent cette ville en général.
Oui, parce qu'elle était, je ne sais pas combien de fois elle était faite et refaite après la visite de vos compatriote. En 1812, il était brûlé. Avant, c'était la Révolution qui a changé beaucoup le visage de la ville, parce que les hôtels particuliers, des maisons qui sont devenues des appartements communautaires, la chose qui n'existait avant. Après, c'était la guerre. Après la guerre, c'était la perestroïka.
Ensuite, les transformations de l'époque de Staline, quand la Moscou en bois commence à disparaître, justement, n'est-ce pas?
Non, ça commençait avant, un peu avant, mais plutôt c'est à l'époque de Khrushchev, parce que Staline, c'était que les grands axes. C'était Tverskaya, par exemple. C'était ça. À l'époque de Khrushchev, c'est lui qui a commencé à construire ce qu'on appelait Khrushchev.
Les maisons de Khrushchev.
Oui, c'est un jeu de mots, parce que Khrushchev va dire que c'est
un taudis, quoi.
Oui.
Un
taudis khrushchevien.
Un taudis khrushchevien. Un grand taudis khrushchevien qui devait durer 25 ans seulement, et puis être détruit. Maison en panel, en bloc, comme ça.
Oui,
préfabriqué.
Mais de toute façon, c'était une solution, parce que la ville était surhabitée.
Donc la ville se métamorphosait plusieurs fois, s'est densifiée, la population augmentait chaque fois, et ça effaçait les traces du passé. Mais vous, ce qui vous intéresse, ce sont les traces du passé, justement, à Moscou.
Là, à côté, il y a une jolie maison qui était construite par un Morozov. C'est d'une famille des marchands extrêmement riches. Et sa mère, qui était religieuse, qui habitait au banlieue de Moscou. Et voilà, quand il construisait cette maison, qui existe maintenant, il a demandé à son architecte qu'il lui fasse quelque chose qui n'existe pas à Moscou, qui n'existait nulle part. Alors, lui a fait, c'était à l'époque de d'Art Nouveau, alors lui a construit vraiment...
C'est le gouvernement qui passe.
Oui.
Un cortège officiel qui passe.
Oui, président ou premier ministre. Et voilà, cette maison...
C'est la maison de Sava Morozov.
Non, son frère.
Son frère.
Un peu fou. Et voilà, quand il a fini cette construction, qui était le mélange d'architecture de méditerranéenne, arabe, ensuite les thèmes de l'art nouveau, il a amené sa mère pour lui montrer. Même elle n'a pas descendu de carrosse, elle a regardé, elle a dit, bon, avant c'était moi la seule à savoir que tu es un crétin, maintenant tous les moscovites vont le savoir. Je te félicite. Elle a reparti, même elle n'a pas entré.
Rustam Rahmatolin, bonjour. Vous êtes spécialiste de l'architecture, écrivain. Donc on entend bien derrière l'essence de votre travail. Vous travaillez sur la métaphysique de la ville de Moscou, et la métaphysique des villes peut-être en général. Est-ce qu'on peut dire que la métaphysique de Moscou, c'est la transformation, la destruction, la reconstruction permanente?
Je pense que tout ce qui peut être expliqué sans évoquer la métaphysique doit être expliqué sans elle. Bien sûr, il y a une certaine métaphysique dans le vandalisme, mais c'est un autre sujet.
Non, il faut qu'on s'éloigne parce qu'effectivement, c'est pas très métaphysique ce qu'on entend. C'est l'action humaine, on est en train de détruire quelque chose. Et qu'est-ce qu'on détruit au juste? On va demander dans un instant. Ici, peut-être, non? Devant son expression.
Parler d'un quelconque sens profond ferait trop d'honneur à ceux qui détruisent sous nos yeux la propriété des princes Chakovskoy. Ils le font dans leur intérêt au détriment de la ville. Dans ce cas précis, il s'agit d'un théâtre qui aurait pu obtenir de la ville une nouvelle salle plus grande.
Il faut qu'on s'éloigne encore une fois, parce que même ici, ça fait trop de bruit. La destruction de l'hôtel particulier de la famille Chakovskoy.
Ici, peut-être.
Rentrons dans un cours ici.
Il s'agit de l'opéra Helikon. Il y a 20 ans, ils ont obtenu l'hôtel particulier des princes Chakovskoy. Durant quelques années, ils faisaient leurs performances dans ce cadre. Et puis, ils ont demandé à la ville un espace supplémentaire pour construire une nouvelle grande scène. La ville n'avait qu'une seule obligation, leur accorder un espace, quelque part, là où il y avait de la place. Mais la ville a tout simplement proposé de détruire les cours de cette propriété et puis de rajouter à côté de la maison historique une nouvelle scène. Il faut comprendre que les cours de la propriété princière, ce ne sont pas uniquement des jardins et des clôtures qui définissent le périmètre de la propriété, mais c'est aussi une dépendance en demi-cercle dans la cour principale, d'un style très singulier. C'est aussi une dépendance dans l'arrière-cour qui donnait ici, où nous nous trouvons, sur la rue Kalachny. Donc, il s'agit d'un formidable ensemble architectural du 18e et de la fin 19e pour la façade, en harmonie parfaite avec les maisons voisines, comme l'actuel théâtre Maïakovski, qui d'ailleurs a été construit par la princesse Chakovskoy. Curieusement, quand elle a voulu construire une autre scène, elle n'a pas décidé de détruire ses cours, mais elle a acheté le terrain juste à côté pour construire le théâtre qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Maïakovski. La ville de Moscou devrait suivre son exemple, tout simplement. Le conflit n'aurait pas eu lieu. Malheureusement, le gouvernement moscovite précédent de Yuri Louskov a pris une autre décision. Et durant 3 ans, entre 2009 et 2011, on détruisait la propriété des princes Chakovskoy. Devant nos yeux, on creuse maintenant un énorme trou pour les fondations d'un nouvel amphithéâtre, et le gouvernement actuel nous promet cette nouvelle scène pour la fin de l'année. L'hôtel particulier a aussi subi des transformations. On y a rajouté un étage. On espère sincèrement qu'il s'agit de la dernière destruction à Moscou dans la catégorie maison aristocratique.
Духовное управление мусульман европейской части России Равиль Гайнуддин решило строить мечеть.
L'année dernière, on a perdu la mosquée, ce qui n'était pas arrivé depuis plusieurs décennies tout de même. Tout comme ici où nous sommes, le conseil des muftis et son président, Ravil Gaitnuddin, ont décidé de construire une nouvelle mosquée à la place de l'ancienne. Une grande, nouvelle, à la place d'une petite, mais ancienne. Tout comme ici. Tout comme ici, ils ont fait des manipulations avec le statut d'un monument historique, et ce sont des histoires assez cyniques. Par exemple, le conseil des muftis a déclaré après la destruction de l'ancienne mosquée que, en fait, elle a été, tenez-vous bien, emportée par la pluie. 106 ans durant, la vaillante mosquée résistait aux pluies sans problème, mais là, non, elle a cédé. Sans doute que Moscou n'avait jamais connu de telles pluies auparavant. Voilà. Rien que durant cette année, on a perdu 14 monuments historiques de plus, qu'ils aient ou non ce statut officiel. Une partie de ces destructions a été planifiée par le gouvernement précédent, mais le gouvernement actuel ne veut pas ou ne peut pas faire autrement.
Thank you.
vous expliquer ce manque d'amour pour ce formidable héritage?
Город в этом смысле очень неоднородный. Нельзя сказать обо всех нас, что этой любви нет. Но
l'opinion est assez troublée sur ces questions.
Нет и консолидации общественного мнения.
On ne peut pas dire que les moscovites ne sont pas amoureux de leur patrimoine. Mais l'opinion publique n'est pas consolidée. L'année dernière, au moment du départ du maire précédent, notre thématique, la défense du patrimoine, est devenue la deuxième thématique la plus importante pour les moscovites, juste derrière la question des bouchons, selon les sondages. Mais dès qu'il s'agit de défendre un cas particulier, une maison par exemple, les opinions divergent. Vous savez, ici, cela se passe dans la blogosphère, et dans cet espace, les gens qui crient le plus fort sont ceux qui n'y comprennent pas grand-chose.
Mais moi, je parlais du pouvoir.
Le pouvoir est sans doute profondément indifférent à ce sujet. C'est la conséquence d'une ignorance généralisée, de méconnaissances, de l'incompréhension de ce qu'est Moscou, de cette habitude de toujours regarder vers l'étranger et penser qu'ailleurs, c'est mieux qu'à la maison. Mais c'est aussi la conséquence d'un simple fait. 8500 monuments culturels. C'est impossible à imaginer. Même les meilleurs spécialistes Est-Moscou ont des difficultés à saisir une telle richesse. Et il y a trop de clichés aussi, comme Moscou a été totalement brûlée en 1812 par Napoléon. Oui, elle brûlait, c'est vrai. Mais curieusement, sur ces terres brûlées, on retrouve ensuite des milliers de maisons du 18e, des centaines de maisons du 17e. Pour une maison en pierre, brûlée veut tout simplement dire devenue provisoirement inhabitable. Donc, ce genre d'idées reçues travaille contre la ville. Ou encore un stéréotype. Moscou est une ville de marchands. Mais non, c'est la ville des aristocrates, des comtes et des princes. Même à l'époque, quand la capitale se trouvait à Saint-Pétersbourg, presque chaque famille noble avait une maison à Moscou. Mais le moscovite moyen l'ignore. Il n'a pas la culture du regard, pas l'expérience de l'observation. Il n'aura pas l'idée de faire comme nous aujourd'hui, rentrer dans une cour. Et puis observer cette arche, ce porche, découvrir la maison depuis l'arrière-cour. Il ne ressent pas que la ville a une troisième dimension. Il voit une ville plate, comme un assemblage de décorations. À la manière d'une ville comme Saint-Pétersbourg, une ville de façade. Des façades d'immeubles côte à côte. C'est de la facilité, sans doute. Mais pour comprendre Moscou, il faut avoir conscience du volume de cette ville. Ici, les seigneurs, autrefois, aimaient vivre dans le fond des cours. Leur maison était au fond de la cour. Ce qu'on voit devant, donnant sur la rue, c'est souvent les constructions plus récentes. Mais peu de gens le soupçonnent.
Quel regard portez-vous sur cet immense projet qui est Moscow City?
Cela a été décidé par le maire de Moscou. Il pensait y transférer les organes du pouvoir municipal. Il construisait cette nouvelle colline à l'époque du conflit avec le pouvoir fédéral, à l'époque du président Eltsin. Cet autre pouvoir, qui était sur une autre colline, au Kremlin. Le conflit a été très sensible. Donc, Moscou City est en quelque sorte un monument de cette confrontation. Mais il ne s'agit pas uniquement d'une bataille entre les deux collines. C'est aussi une nouvelle ville à l'américaine. Vous savez, si on parle de géopolitique, je suis un conservateur. Pour moi, c'est un véritable monument des années 1990. Un monument symbole d'une époque où la Russie a perdu une importante partie de sa souveraineté en la transférant au-delà de l'océan Atlantique. Vous savez, à Rome, vous avez également sept collines. Et elles illustrent aussi une lutte permanente et des oppositions. Le mot palatin de l'empereur contre le Capitole des patriciens, ou l'Aventin de la plèbe, ou le Vatican des papes. À Moscou, on voit la même chose, mais traduit dans le langage de notre culture. On peut trouver à Moscou notre mont Palatin et notre Capitole. On comprend que le Kremlin n'est qu'un mont Palatin et que le Capitole correspond à l'Arbate. La Taganka, c'est la colline de la plèbe et la colline des moineaux et notre Vatican, bien qu'inachevé. Mais il ne s'agissait pas ici de construire une copie de Rome, ni que Moscou veuille devenir Rome. Cela signifie que les deux, Rome et Moscou, sont construites selon une même matrice. J'ai comme la sensation que ce sont deux incarnations d'une même idée, d'une ville éternelle, avec une telle similitude topographique, comment l'expliquer autrement ?
Рустам Рахматуллин a évoqué l'Arbat. Voici justement l'Arbat, mais immortalisé par le chanteur Bulat Okudjava, l'Arbat de l'intelligentsia moscovite. Tout le monde à Moscou vous dira que l'Arbat d'Okudjava n'avait rien à voir avec l'Arbat d'aujourd'hui, celui d'aujourd'hui, ayant perdu son âme au profit de boutiques, de souvenirs pour les touristes, donc pour nous, ceux qui essaient de saisir la ville depuis l'extérieur. Et puis, il y a deux rues Arbat. Ce vieil Arbat, une rue piétonne, l'une des rues les plus touristiques de Moscou, et rue Nouvelle Arbat, une bruyante avenue bordée par les gratte-ciels soviétiques. C'est là où la radio de Sergueï Buntman capte l'écho de Moscou. По делам спешат, ах, Арбат, мой Арбат, ты моя религия, мостовые твои подо мной лежат, ах, Арбат, мой Арбат, ты моя религия, мостовые.
Est-ce qu'il y a au moins un immeuble contemporaine qui lui plaît à Moscou?
Non, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs parce que, par exemple, j'aime bien, même beaucoup parfois, tout le quartier d'affaires, le nouveau quartier d'affaires, le Moscow City. J'aime beaucoup, vous savez, parce que c'est... J'aime beaucoup la pensée paradoxale quand elle existe. Ce que je n'aime pas, c'est l'absence de la pensée, l'absence d'une certaine... idées, quand il y a des maisons sans idées, même des maisons qui reproduisent l'aspect, le caractère de la ville de Moscou d'il y a 100 ou 200 ans, je n'aime pas, mais quand il y a les gratte-ciel en vert, quand je rentre chez moi par exemple, quand je vois avec au-dessus de cette avenue Koutouzov, cette architecture stalinienne, et on voit cette, comment les appeler, de glace, ou bien de glace vivante. C'est très vivant et très bien rythmé. Il y a un rythme. D'où que je le vois, du quai de la Moskova, où il y a la Maison Blanche, la maison du gouvernement, où je vois de l'avenue Koutouzov.
Ou même d'ici, si on se penche par la fenêtre, on le verra.
Ou même d'ici, mais ce qui est... La distance a été ou bien calculée, ou bien trouvée. La distance et cette différence entre la hauteur et la distance qui nous sépare de ce quartier, c'est très bien réfléchi ou bien trouvé. Paradoxalement, toutes les idées, les grandes idées, les idées plutôt grandioses de Moscou soviétique, tous ces plans urbains de transformer Moscou en une ville classique, en une ville, je dirais, une ville à la Haussmann, voilà, de faire des avenues, de faire des grandes places, les boulevards qui ne sont plus des boulevards mais des avenues qui s'appellent boulevards. Tous les plans n'étaient accomplis que partiellement. Et c'est aussi le caractère de Moscou. Parce qu'on voit, par exemple, la Novi Arbat, c'était cette idée de Khrouchtchev, de percer une avenue dans un quartier très vieux de Moscou, de percer vers la Moskova, de percer vers la rivière, faire des grands immeubles en verre et béton, en forme de livres, comme ça. C'était cette idée que Khrushchev a beaucoup aimé, la Havane. Mais tout ça, rien n'était abouti, heureusement. Et c'est pourquoi Moscou a conservé ce caractère. On voit un palais comme avant. C'était, on voit un palais et à côté, il y a une petite izba, une petite maisonnette. On voit une ruelle comme ça, tortueuse, qui mène personne ne sait où. Moscou est une ville construite d'après plusieurs plans et contre tous les plans du monde. Mais en même temps, il y a un rythme très, 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 très subtil de la ville de Moscou. On voit une bande de ces maisons de deux ou trois étages et puis les clochers des églises. Ça fait une sorte de cardiogramme. Et puis, à l'époque de Staline, à l'époque soviétique, il y avait à peu près la même idée, mais le cœur est devenu beaucoup plus grand. C'est pourquoi le cardiogramme est devenu beaucoup plus, je dirais, espacé. On voit des maisons, des rangées de maisons de 10 à 12 étages, très décorées, comme l'avenue Kutuzov. Et puis, on voit ces gratte-ciels staliniens, ces tartes à la crème, avec des tourelles, avec des tours. Dans le panorama de la ville, ça remplace les clochers des églises, et ça fait le même effet. Il y a beaucoup de choses qui ont été conservées, qui se sont conservées en dépit de toutes les idées et tous les plans de modernisation totale et complète de Moscou. Ce qui est resté, c'est le caractère, c'est saboter Moscou, et aussi sa laideur. C'est une ville qui est assez difficile à saisir, voilà, jusqu'à présent.
Pourquoi on ne peut pas saisir cette ville ?
Pour moi aussi, comme pour tout le monde, il y a un mystère de Moscou, parce que c'est un mélange de richesse et de pauvreté, et un mélange très spécial.
L'écrivain Viktor Erofeyev.
Moscou est très chic, mais chic d'une manière pauvre et vulgaire. Nous n'avons pas depuis longtemps la tradition de richesse. Tout le monde était pauvre, sauf, disons, les membres des bureaux politiques de l'Union soviétique, du Parti communiste. Et alors, personne ne savait comment être riche. Que faire avec la richesse? Il y a beaucoup de gens, il y a des milliers de gens à Moscou qui sont très très riches, beaucoup plus riches, disons, que la classe riche de Paris, parce que ici, le pays est grand et il y a beaucoup de ressources pour être riche. Il faut commencer par le commencement. Qu'est-ce que nous avons comme tradition? Ce sont des palais des tsars, des rois royaux. Eh bien, c'est tout. C'est la richesse qui donne pour nous la perspective qu'est-ce que c'est être riche. Et bien sûr, les musées du Kremlin, avec aussi des diamants. Voilà, c'est-à-dire que nous n'avons pas de style. Parce que le style soviétique était le style gris et décomposé. Et on a commencé par le commencement. C'est-à-dire, d'abord, les bandits avaient eu des vestes rouges et des chaînes en or. Maintenant, ici, il n'y a pas de bandits comme ça. Il y a des gens qui ont décidé que la plus grande l'idée de la vie, c'est le glamour. C'est pour ça, ici, il y a un grand mot pour être dans cette tradition plutôt italienne d'être glamour. Tous les magazines, tous les revues travaillent sur cela. Puis, le goût. Le goût, c'est intéressant. Mes parents, en Vidachin, dans un petit village, des diplomates. Alors, chaque diplomate a construit sa villa selon les idées du pays où il était. Alors, nous, par exemple, on a fait ça comme un chalet de Suisse, pas parce que nous étions beaucoup de fois en Suisse, mais c'était pas loin de France. Mais il y a d'autres, comme le style américain, le style allemand, tout ça. C'est très curieux, ce village. Et voilà, c'est la même chose pour Moscou. C'est-à-dire que chacun son style. Et le style est très vulgaire et en même temps, c'est riche. Et la même chose avec les voitures. Tout le monde veut avoir une grande voiture parce que pendant l'Union soviétique, les gens ne pouvaient pas avoir de voiture. Alors, il faut avoir les voitures. Il faut avoir les villas, les dachas avec le tour. C'est le symbole de la réussite, de succès.
Et aussi l'idée qu'on vit comme dans le Kremlin.
Avec le tour, comme Kremlin, et aussi ce symbole phallique, bien sûr. Il y a à Moscou les endroits où les gens qui sont riches ont déjà collectionné des choses incroyables, commençant par les peintures de Picasso et Chagall et continuant avec les vases, les chaises, les tables des tsars et tout ça. Voilà, c'est pour ça que je crois que s'il y a un mélange de vulgarité bien compris, c'est-à-dire qu'on comprend pourquoi cette vulgarité et des richesses. Si on mélange, ça c'est Moscou d'aujourd'hui. On peut le comparer avec une femme qui a acheté une fourrure sibérienne, mais il sait rien. Il a mis sur le corps nu. Parce que qu'est-ce qu'elle doit apporter à part des fourrures, il ne sait pas. Et cette vulgarité est très liée avec les sexualités. Les femmes portent des choses agressives sexuellement, et toujours il y a une chasse des hommes pour les femmes, et au contraire, les femmes pour les hommes. C'est-à-dire que la vie moscovite, c'est une chasse permanente.
Difficile à saisir cette ville, difficile de l'aimer, difficile d'y vivre. De l'extérieur, oui. De l'intérieur, c'est une autre histoire. C'était Moscou, extérieur jour, avec Sergei Buntman, Ludmila Ulitskaya, Tatiana Щербина, Екатерина Ираги, Александра Дебашьян, Рустам Рахматуллин, Виктор Ерофеев. Réalisation, Guillaume Baldi, prise de son, Laurent Lucas, mixage, Philippe Bredan. Production coordination Catherine Libert. En documentaire d'Alexis Ipatovtsev.
Moscou, on ne peut en partir sans rêver d'y revenir, comme les héros de Tolstoï dans Guerre et Paix. Pour revenir dans nos villes-mondes, Moscou et toutes nos escales, vous pouvez réécouter nos voyages, télécharger, podcaster sur le site internet franceculture.fr. Après la Russie, Balkans transit, comme le livre de François Maspero, Villemonde jette l'ancre en mer Noire, dans un port qui a fait couler l'ancre des écrivains, Odessa. Là-bas, ces steppes ensoleillées, baignées par la mer, écrivait Isaac Babel. Odessa, Villemonde, samedi prochain, 6 août à 19h sur France Culture.